Philosophe, la série de France Inter consacrée aux révolutionnaires de la pensée, toujours en compagnie de la philosophe Perrine Simon-Naoum. Hannah Arendt, Perrine Simon-Naoum, a écrit donc sur le totalitarisme. Elle a inversé le sens qu'on donne traditionnellement à la politique et elle pose même cette question: la politique a-t-elle encore un sens? Pourquoi cette question-là?
Cette question, il faut la relier à l'analyse qu'elle vient de faire des origines du totalitarisme. Elle la pose dans un livre majeur qui porte le titre « Conditions de l'homme moderne » qui paraît en 1958. Et l'idée d'Arendt, c'est de dire « La modernité a imposé certaines expériences du monde dont la critique pourrait ouvrir finalement la voie à d'autres expériences ». Évidemment, parmi ces expériences, et la plus extrême, il y a celle du totalitarisme.
Bien sûr.
Ce qui est très intéressant, c'est que Arendt va poser la question de la modernité comme un problème politique.
Alors partons de cette question-là, du titre même, « Conditions de l'homme moderne », donc qui paraît alors qu'elle est exilée aux États-Unis. Elle insiste, c'est le mot de « condition », « condition de l'homme ». C'est pas la nature humaine dont elle est en train de parler, elle parle d'une expérience contemporaine.
C'est une expérience contemporaine et c'est une expérience qui est ancrée dans le monde. Et je dirais dans le monde au sens biologique, au sens de la Terre. Le livre s'ouvre par un extraordinaire prologue qui retrace les réactions au vol du Spoutnik en 1957.
C'est l'envoi du premier satellite russe en 1957, écrit-elle. Un objet terrestre fait de mains d'hommes fut lancé dans l'univers. Pendant des semaines, il gravita autour de la Terre, conformément aux lois qui règlent le cours des corps célestes, le Soleil, la Lune, les étoiles. La réaction immédiate, et c'est extraordinaire, telle qu'elle l'analyse et telle qu'elle l'observe, telle qu'elle s'exprima, cette réaction immédiate sur le champ, ce fut le soulagement de voir accompli le premier pas vers l'évasion des hommes hors de la prison terrestre. Le premier pas vers l'évasion des hommes hors de la prison terrestre. Et ça, elle ne le comprend que comme une critique radicale de la condition de l'homme moderne, justement.
Oui, ce qu'il y a, c'est que ce qu'elle essaye de penser, encore une fois, ce sont les modalités de l'agir dans ce livre « Conditions de l'homme moderne ».
Mais qu'est-ce qui la frappe dans Spoutnik? Qu'est-ce qui la frappe dans ce bip-bip qu'on entend envoyer depuis l'espace?
Ce qui la frappe, c'est en réalité cette illusion des spectateurs de penser qu'ils pourraient échapper à l'atmosphère terrestre et donc échapper à ce qu'elle appelle, elle, la condition humaine. Car encore une fois, dit-elle, nous pouvons être dans les étoiles ou sur d'autres planètes, nous serons toujours des hommes et nous serons toujours des hommes mortels et finis. Et donc, c'est cette critique de la modernité qui finalement amène à faire disparaître le monde, là, au contraire, où nous devrions essayer de penser notre condition humaine en reformulant des expériences d'être au monde.
Au lieu de penser la Terre comme une prison, au lieu de réfléchir comme Elon Musk, comme on pourrait le dire en souriant, elle va désigner trois piliers de l'activité humaine. Hannah Arendt, dans ce livre « La condition de l'homme moderne », elle définit ces trois piliers comme le travail, l'œuvre et l'action. On va s'arrêter sur chacun de ces piliers. Ils doivent être complémentaires, mais commençons d'abord par le travail.
Le travail, c'est une référence directe à Marx. Et il faut se souvenir que tout au long des années 1950, le projet d'Arendt était non seulement d'écrire un grand livre de philosophie politique, mais aussi une biographie de Marx. Le travail résume, chez Marx, l'existence humaine. Ça n'est pas le cas chez Arendt. Il y a le travail qui fournit à l'homme les conditions d'existence biologique, ce qu'il faut pour répondre à nos besoins biologiques, mais on ne s'arrête pas là. Il y a deux autres niveaux. Le second niveau, c'est celui de l'œuvre. En quelque sorte, c'est la fabrication, l'œuvre. C'est l'artisan. C'est l'idée que, à travers ce geste, et encore une fois, condition de l'homme moderne, c'est une analyse des modalités de l'agir, de l'activité de l'homme au cours de son existence. Donc l'œuvre, finalement, eh bien, elle survit à son auteur.
On produit des artefacts qui seront là après que nous ayons disparu. Par exemple, il y a les œuvres d'art, mais il y a aussi tout ce que nous fabriquons comme outil ou comme objet.
Et puis, il y a pour elle le dernier niveau, qui est le niveau essentiel, c'est-à-dire le niveau de l'action. Et le niveau de l'action, c'est le niveau du politique. Je rappelais que Arendt s'inscrit dans l'héritage kantien. Kant posait trois questions, et à ces trois questions, que m'est-il permis de connaître, que m'est-il permis de faire, que m'est-il permis d'espérer, Arendt va rajouter une quatrième question: qu'est-ce que l'homme? Condition de l'homme moderne. Eh bien, cette condition de l'homme moderne, elle veut en quelque sorte, et je reviens au thème du révolutionnaire,
oui,
elle veut en réalité nous faire comprendre qu'elle tient dans l'action, elle tient dans le niveau politique, qui est pour elle une manière de recomposer du commun, qui est pour elle une manière de retisser les liens que le totalitarisme a fait exploser.
Ça, c'est le plus haut accomplissement que puisse espérer un être humain ou des êtres humains sur Terre.
Oui, car ce niveau de l'action, c'est en même temps, donc le niveau politique, celui qui permet d'accueillir le nouveau, celui qui permet d'accueillir la génération. Or, précisément, la critique qu'Arendt formule de la modernité, c'est que la modernité cherche à supprimer le caractère imprévisible de l'action. Or, ce côté imprévisible de l'action, c'est ce qui est précisément apporté par la réception du nouveau.
Et c'est aussi ce qui permet la liberté. La liberté, elle est inséparable de l'agir, de l'action. Ce qu'elle refuse et ce qu'elle pointe comme danger pour toutes les sociétés contemporaines, c'est de ne valoriser que le travail, de n'accorder d'importance qu'à l'œuvre, qu'à l'artisanat, qu'aux artefacts. Et c'est vrai que c'est une expérience que nous pouvons faire encore aujourd'hui. Elle est morte il y a 50 ans, Hannah Arendt. On a l'impression qu'elle parle de l'actualité la plus présente et la plus chaude. Quand elle compare le monde moderne avec celui du passé, elle fait quel constat? Elle a l'impression que la société est en train de devenir une société de consommateurs, on peut dire ça, ou est-ce que c'est aller trop loin pour en faire quasiment une pensée contemporaine, marxisante?
Elle n'est pas marxisante. Hein. Encore une fois, elle dépasse le niveau de Marx, même si elle l'inclut. Ce que Arendt critique dans la modernité, c'est le processus. Et donc, on voit bien que ce processus, il est assujetti finalement à un mode d'emploi technique. On retrouve d'ailleurs là une critique qui est celle de Heidegger, qui est la critique
de la technique sur l'ensemble des activités humaines.
En revanche, vous avez raison d'y opposer la liberté, et donc c'est à l'aide de ce concept de liberté qu'elle critique la modernité, concept de liberté qui remonte très loin chez elle, et ça prouve qu'on peut faire des thèses importantes dans sa vie, qui remonte à sa thèse, publiée en 1929, sur le concept d'amour chez saint Augustin. Qu'est-ce qu'elle emprunte à ce théologien, qu'elle lit en fait comme un philosophe?
Oui.
Elle lui emprunte l'idée que la liberté n'est pas une faculté humaine, mais c'est une activité. Et donc, Arendt va chercher, si je puis dire, à refonder une philosophie politique contemporaine de la liberté.
La liberté qui a la capacité de produire du nouveau. Il y a malgré tout quelque chose qui est perturbant chez Hannah Arendt, c'est la récupération, pour le dire rapidement, dont elle fait l'objet aujourd'hui, ou en tout cas de malentendus, c'est-à-dire qu'elle a écrit sur la crise de la culture. La crise de la culture, la crise de l'éducation. Et pour beaucoup aujourd'hui, c'est une justification de tous les conservatismes. Elle est même de toutes les pensées réac, on peut le dire comme ça. Et c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'elle entend par crise de la culture?
Oui, dans cet ensemble d'essais qui suit condition de l'homme moderne, elle reprend sa définition et sa critique de la modernité, qu'elle identifie d'une part à trois événements, la conquête de l'Amérique, la réforme et le télescope. On pourrait traduire...
Quoi de commun entre les trois ?
Alors, l'idée, c'est la maîtrise du monde par l'homme, mais plus encore que cette maîtrise du monde, ce que Heidegger aurait appelé l'arraisonnement, c'est en fait la coupure que cela induit dans la pensée philosophique qui déplace ses centres d'intérêt du monde vers l'homme. Hannah Arendt dit finalement, avec Descartes, on a cessé de s'intéresser au monde pour s'intéresser au sujet pensant et à la validation finalement de ces processus rationnels. Et donc, il faut que nous renouions avec la grande tradition. Et ce terme de tradition est absolument essentiel dans sa pensée de la culture et l'écarte de toute interprétation, on pourrait dire, réactionnaire, oui. Au sens où, effectivement, la grande tradition, elle a été interrompue de Platon à Marx. On doit, en quelque sorte, revenir, non pas en arrière, mais on doit revenir dans ce qu'elle appelle la brèche entre le passé et le futur. C'est une conception de la temporalité très originale chez Arendt, qu'elle emprunte à une parabole de Kafka, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout pour elle de revenir au passé, au classicisme, au passéisme. Il s'agit au contraire de comprendre comment il y a une temporalité qui vient briser la continuité entre passé et futur et qui est justement la possibilité d'accueillir le nouveau.
Et il y a cette idée aussi que la transmission est ce qui permet peut-être de s'engouffrer dans cette brèche et de ne pas être dessaisi de ce qui fait de nous des hommes et dont nous héritons malgré tout.
Oui, il y a toute une réflexion sur la transmission qui, là encore, vient de Heidegger. Je dirais que ce qui est intéressant, alors il faut aussi se souvenir que Arendt, si elle nous a transmis beaucoup, n'a pas transmis d'un point de vue biologique, elle n'a jamais eu d'enfant, mais peut-être sommes-nous aujourd'hui ses héritiers. Il y a cette très belle phrase dont s'inspire Arendt, vous parliez de René Char tout à l'heure, une phrase qu'elle emprunte à Char, « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'accueil du nouveau, c'est finalement la possibilité de recomposer en permanence du commun à partir d'une notion de liberté, qui est aussi une réinvention de la tradition. C'est pour ça que on aurait tort de faire d'Arendt une réactionnaire. On aurait tort de penser d'ailleurs que elle a une référence univoque, je dirais, à l'Antiquité classique. Ce qui l'intéresse dans l'Antiquité et ce pourquoi elle la valorise par rapport à la modernité, c'est que elle dit que au moment de l'Antiquité, dans la Grèce des philosophes antiques, tout était encore possible. Or, ce qui s'est refermé, c'est justement cette pluralité des possibles. On doit aussi prononcer ce terme de pluralité qui est essentiel chez Arendt, qu'on retrouve chez un philosophe comme Raymond Aron, à savoir l'idée que ce monde commun, ça n'est pas le monde de la pensée unique, mais c'est celui de l'accueil des pluralités de pensée et d'être.
Merci Perrine Semonaoum. À suivre, Hannah Arendt, les droits de l'homme et le rôle de l'intellectuel.